Il y a quelques jours, il y a une cinquantaine de pédiatres et de spécialistes qui ont sonné l'alarme dans une lettre ouverte qui dénonçait le recours un peu trop facile aux médicaments pour soigner le TDAH chez les jeunes Québécois. Effectivement, quand on regarde la statistique, c'est assez incroyable. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que la consommation de médicaments qui veulent soigner le TDAH, par exemple le Ritalin, probablement le plus connu, elle est trois fois plus élevée, cette consommation, chez les jeunes Québécois que chez les jeunes dans le reste du Canada. Trois fois plus élevé, c'est pas rien. Est-ce qu'on est trois fois plus TDAH que les Canadiens, que le côté du rock? On va poser la question à nos invités, mais surtout, on va se demander, est-ce qu'on est dans une société qui est devenue, au Québec en particulier, vraiment aux prises avec un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, parce qu'il y a aussi ce trouble-là sans être sur le gros nerf, comme on dit. L'hyperactivité, c'est un élément supplémentaire. Joël Monzé nous en a souvent parlé. Il est docteur en neurosciences, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, un des signataires de cette lettre. Merci d'être là, Joël.
Avec plaisir.
Avec nous également, Dominique Gagnon, qu'on attrape en France, où il séjourne. Il est entrepreneur. Il a un trouble de déficit de l'attention avec le H. Il a coécrit avec Kim Rosk, entre autres, Marie-Mé, Dany Saint-Pierre, se sont également révélés dans son livre « J'aime les TDAH ». Bonjour, Dominique.
Bonjour.
On t'entend bien, oui, tout va bien. Dis-moi, est-ce que t'es au courant donc de cette lettre qui a été signée là par une cinquantaine de spécialistes, dont le docteur Gilles Julien aussi du Centre de pédiatrie sociale à Montréal, qui disait que franchement il y avait une espèce de différence qui était assez troublante entre les jeunes ici puis les autres jeunes Canadiens ou ici au Québec, on en avale beaucoup du Ritalin. Toi, tu as décidé de pas en prendre, hein, mais de vivre avec le TDAH quand même.
Exact, j'ai décidé de pas en prendre. C'est vraiment une décision personnelle. J'étais toujours à la plaque que j'ai toujours une prescription, qu'à chaque jour, je me dis qu'il faudrait que j'y aille, mais j'y vais pas. Encore une fois, je suis en France et je me suis rendu compte tantôt que j'avais oublié les macarons pour ma fille à la chambre d'hôtel à Paris en partant. Donc, c'est continuellement un effort et un assemblage de problèmes, mais je pense que la médicamentation, c'est pas la solution, c'est un des éléments de la solution. Moi, j'ai décidé de privilégier d'autres choses, dont le sport, dans la méditation, dans différentes autres choses pour un petit peu me calmer. Un petit peu réussir. Je suis ni contre ni pour, mais je suis d'accord qu'il semble avoir un abus assez important en ce moment.
Oui, Joël Monzé, là-dessus. Mais pourquoi en fait, avoir écrit cette lettre maintenant?
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant des années, on a eu des informations parcellaires à travers le nombre de pilules qui sont vendues au Québec et au Canada, à travers les données de l'assurance publique au niveau du médicament. Et il y a deux choses qui sont arrivées en décembre. D'une part, c'est qu'il y a une étude de l'Institut de statistique du Québec qui a montré, en fait, auprès de 62 000 adolescents, que 23 % d'entre eux avaient reçu un diagnostic de TDAH. Autrement dit, on est bien au-delà, en fait, de ce qui était attendu. Le DSM, jusqu'il y a 2-3 ans, dans la version 4, on parlait de 5 à 7%. Dans la version 5 qui est sortie il y a 2-3 ans, on parlait de 10%. Et là, on est à 23% des jeunes qui, à un moment donné ou à un autre, ont reçu ce fameux diagnostic. Donc, l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, alors après, on a été capable d'avoir, en fait, les vraies données en termes de consommation de médicaments. Et là, de nouveau, chez les adolescents, on monte à 14% de jeunes qui sont médicamentés. Autrement dit, on est là encore 40% supérieur, en fait, à la norme qui est considéré par l'ensemble des psychiatres à travers la planète. Donc, quelque part,
donc,
il faut...
Donc, près de 15% des ados au Québec prennent du Ritalin?
Oui, exactement. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que oui, peut-être que le médicament, dans certaines situations, va faire vraiment partie de la solution, mais est-ce que c'est toujours un médicament qui vient combler une problématique de santé, ou c'est un médicament de confort, parce que si je fais plus trop d'efforts pour me concentrer, c'est plus facile pour moi, ou c'est un médicament de performance?
T'en penses quoi?
Ben moi, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui le prennent pour la deuxième et la troisième catégorie. Et c'est certain que ça ne veut pas... il ne faut pas accuser personne, il ne faut pas accuser les enseignants, il ne faut pas accuser les parents, il ne faut pas accuser les médecins ni qui que ce soit. C'est un problème social, ça fait des années que je le dénonce. Et c'est ça qu'il faut considérer. Est-ce que notre société répond encore de manière adéquate aux enfants, aux ados qui sont en train de grandir et qui sont en souffrance?
Dominique, tu voulais rajouter quelque chose?
Ben, en fait, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas le nombre de textos que j'ai reçus d'amis en période d'examen à l'université qui me demandaient si je pourrais aller chercher des pilules et leur vendre. Faut pas non plus se cacher qu'il y a un marché noir extrêmement productif pour tous ces pilules-là, parce qu'effectivement, c'est des pilules de performance. Donc, et je pense, je dis souvent à la blague que d'être sain d'esprit dans une société malade, c'est peut-être ça qui est le pire. Mais c'est sûr qu'il y a une pression aujourd'hui. Moi, à l'école, le directeur m'a dit que je ferais jamais rien de bon dans la vie. Moi, j'ai l'avantage, mes parents savaient pas c'était quoi le TDAH. Donc, ils m'ont pas médicamenté parce qu'ils pensaient juste que j'étais un peu bousculant ou un petit peu énergique. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça semble extrêmement facile. Et je suis en France et je le vois. Ici, personne ne sait même c'est quoi le TDAH. Sincèrement, j'ai parlé au moins avec 40
personnes. Arrête, c'est vrai?
Personne ne sait c'est quoi. Ouais, personne ne sait c'est quoi. Ici, sincèrement, c'est même encore un peu banalisé. Donc, je pense qu'on a des points positifs. On est en avance au Québec. On reconnaît qu'il y a un trouble. Je pense que c'est déjà très bien, mais je suis d'accord que c'est une solution facile aujourd'hui de dire, ben, prends ça. Et c'est vrai que ça peut avoir des résultats, mais des résultats néfastes. Je me rappelle, je parlais à un ami dernièrement qui avait pas pris la bonne molécule et il a eu des pensées suicidaires. C'est très, très difficile aussi de trouver le bon médicament, laisser erreur, etc. Moi, je pense que c'est malheureusement souvent une pression de vouloir performer. On se fait dire que les médicaments vont changer notre vie.
En même temps, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de parents qui m'ont dit, si mon enfant ne prenait pas du Ritalin, je serais juste pas capable de gérer son hyperactivité, son problème d'attention. Je serais juste pas capable de le gérer. Donc, il y en a sans doute qui en ont véritablement besoin. C'est peut-être pas de jeter complètement la pilule par le bord, mais en même temps, est-ce que... Tu disais, Joël, on va pas pointer du doigt personne. Finalement, c'est la faute de personne, mais ça doit toujours bien être un courant qui a été prononcé, qui a été initié quelque part par quelqu'un, non? Comment ça se fait qu'on en est rendu là?
L'augmentation de TDAH, de diagnostic et de consommation de médicaments pour psychostimulants débute aux alentours de 92 quand il y a une société pharmaceutique qui s'est rapprochée d'une association qui venait en aide aux enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage. On est en 92. Au même époque, au Québec, on a commencé à faire une intégration mur à mur des enfants porteurs de handicap sans nécessairement donner le soutien adéquat aux enfants. Autrement dit, c'est une bonne chose d'intégrer les enfants porteurs d'un handicap dans une classe, mais à ce moment-là, il faut diminuer le nombre d'enfants dans la classe de manière à ce que le service puisse être offert de manière adéquate à ces personnes-là. Et on voit qu'avec toutes les coupures qu'on a faites depuis des années, on n'a jamais soutenu les enseignants. Alors les parents aussi, ils ont des vies qui sont stressantes, ils ont parfois des difficultés financières, ils ont parfois une manière de gérer la vie où ils sont un peu trop les gentils organisateurs, donc ils organisent continuellement le jeune n'apprend pas à se déposer. S'il n'apprend pas à se déposer, ouais. Ben comment peut-il écouter en classe? Il y a les écrans qui sont un facteur majeur dans le développement des comportements type TDAH. Pourquoi? Parce que ça va freiner en fait la maturation du cerveau, et les enfants qui sont un tout petit peu plus fragiles, qui ont déjà un peu plus de difficultés, sont beaucoup plus à risque dans cette situation-là. Et c'est ça qu'il faut commencer à considérer. Et tantôt qu'on faisait la comparaison avec la France, mais pour en France avoir de la Ritaline, il faut passer par un pédopsychiatre ou un neuropédiatre, donc le médecin de famille ne peut pas en distribuer. Ah. Il faut avoir la preuve que pendant 6 mois, on a modifié les habitudes de vie des enfants avant d'envisager la prise de Ritalin. Donc ça ne veut pas dire que on est plus en avance au Québec. C'est une autre stratégie médicale qui a été choisie par les psychiatres français, et c'est peut-être quelque chose qui, à certains moments, devrait nous inspirer. Parmi les personnes qui ont rédigé la lettre avec moi, il y a Guy Falardeau. Puis Guy Falardeau, le nombre de fois qu'il partage le fait qu'il renvoie les gens connus, et c'est une des personnes qui a introduit le TDAH au Québec il y a une trentaine d'années. En fait, c'est lui qui a été un des tout premiers à en parler. Et en fait, aujourd'hui, il se dit, mais attention, tout ce qui est de bouche n'est pas nécessairement du TDAH. On peut avoir des difficultés à gauche ou à droite qui n'ont rien à voir avec un trouble neurodéveloppemental, les mêmes symptômes.
C'est intéressant ce qu'il dit, le docteur Guy Falardeau, qui est un pédiatre de Québec assez connu. Là, ça fait plus de 40 ans qu'il traite des enfants dont certains ont reçu des diagnostics de TDAH. Puis il dit, souvent quand je réfère un enfant au CLSC, je me fais dire, donnez-lui des médicaments, puis si le médicament ne marche pas, là on s'en occupera. Mm-hmm. Avec peut-être une thérapie. Mais il faut aussi dire, puis Dominique, peut-être tu peux renchérir là-dessus, avoir une psychothérapie ou rencontrer un psychologue avant déjà de rencontrer un psychiatre, ça c'est une autre affaire, mais même un psychologue, à moins d'accepter de le payer au privé, ce qui est quand même une centaine de dollars, je veux dire, tu te mets sur la liste d'attente, même pour tes enfants, là, c'est pas évident d'avoir accès à une thérapie qui t'aiderait. Donc le médicament devient la pilule facile aussi. Dominique?
Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je sais pas, ça fait peut-être 4 ans que je vois un psychologue régulièrement. Je dis souvent que c'est en fait ça devrait devenir la norme. Même si on va bien, je pense qu'on devrait voir un psychologue pratiquement pour parler, évacuer, mais encore plus qu'on a le TDAH. Moi, ça m'a permis justement de ne pas être médicamenté. Je suis d'accord, les coûts, moi, j'ai la chance. Hein. Je suis entrepreneur, j'ai une firme, on a des assurances, donc c'est remboursé en grande partie. Et si j'y vais une fois ou deux semaines, on parle quand même de 200 à 300 $ par mois. Mmh. C'est sûr et certain que c'est un investissement. Pour moi, c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un investissement dans sa santé mentale. Parce que souvent, on investit énormément dans sa santé physique. On s'est parlé d'aller au gym, de faire ci, de faire ça, mais ouais. Parler d'investissement en santé mentale, c'est encore très, très nouveau au Québec. Bon, il y avait telle part pour la dernièrement, mais il n'y a pas grand-chose encore qui parle énormément de ça.
Ouais. Tu l'as appris à quel âge, toi, que tu avais un TDAH, Dominique?
Je crois que j'avais 25-26 ans. Enfin, je pense que je le sais. Je dis dans le livre que je l'ai toujours su que j'étais différent.
Oui, mais ton diagnostic.
J'avais juste pas réussi à mettre des mots. Ouais. J'avais juste pas mis des mots sur ça.
Parce que ce que j'allais dire, c'est que, Joël Monzé, ce qu'on voit maintenant, là, la tendance, c'est de plus en plus, ce sont des adultes qui se font dire qu'ils sont TDAH.
Oui, en fait, ça s'explique par une raison bien simple. C'est que les gens sont stressés, ils ont de l'anxiété, ils ont de l'angoisse. Et pendant longtemps, on les a traités, en fait, avec des anxiolytiques. Et puis, on a commencé à voir, sur le plan clinique, une problématique qui s'installe de plus en plus. OK, on voit les choses, surtout avec les personnes âgées, on se pose des questions. Et donc, on a commencé à traiter les gens pour de l'anxiodépression, de manière à leur donner un antidépresseur. Et puis, il y a 5-6 ans, on a eu la preuve, hors de tout doute, que les anxiolytiques, c'était une des portes d'entrée majeures au niveau de l'Alzheimer. Donc, on veut essayer de réduire au maximum les gens qui sont sous anxiolytiques parce que ça vient, en fait, affaiblir les neurones dans le cortex préfrontal et à partir de là, l'Alzheimer a beaucoup plus de facilité là-dedans. Donc, comme les gens sont en souffrance, la manière de les aider, c'est de leur donner en diagnostic de TDAH et du Ritalin parce que c'est une intervention médicale minimale et dans certains cas, la personne est tellement dysfonctionnelle qu'heureusement, on a ça. Mais ça ne résout pas le problème.
Mais attends, je reprends ce que tu viens de dire. Tu dis les gens qui prennent des anxiolytiques ont plus de risques de développer l'Alzheimer?
Oui, parce qu'en fait, le médicament, il force, si vous voulez, une réponse. Et parfois, c'est nécessaire parce que la personne n'est pas fonctionnelle. Donc, à partir de ce moment-là, on va aider la personne à mieux fonctionner. Or, le neurone, quand on force une réponse, ben, c'est comme, si vous voulez, l'arbre. Je peux comparer un neurone avec un arbre. C'est comme des belles branches et des belles racines. Mais elles sont un peu moins vaillantes quand on prend un médicament qui joue dans le cerveau. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tous les médicaments qui jouent dans notre cerveau. Donc, on voit que l'arbre est un peu moins vaillant. Et il y a un moment donné où, quand les plaques qui sont responsables de l'Alzheimer commencent à intervenir, les neurones n'ont plus la force, en fait, de se réorganiser et de compenser, en fait, la perte neuronale qui est normale avec l'âge et le vieillissement et les plaques qui sont présentes.
Merci à tous les deux. On va s'arrêter ici. Merci, Dominique Gagnon. Je te laisse aller à tes affaires. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je rappelle que Dominique Gagnon est entrepreneur. Il a cofondé Connect & Co. Il a 31 ans. Il vit avec un TDAH et a décidé de ne pas prendre de médication. Il fait autrement. Il y a de la thérapie, entre autres. Il est un des co-auteurs avec Kim Rosque du livre « J'aime les TDAH ». Il y a un documentaire également qu'ils ont fait. On va s'arrêter ici. Joël Monzé reste avec moi, bien sûr. Puis je veux vous entendre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait dire, même, je le disais, à l'âge adulte, il y en a qui viennent d'apprendre qu'ils sont soudainement TDAH. C'est sûr que souvent, tu t'en rends compte un peu là, que t'es... Moi, je dis toujours à la blague que je suis en train de le devenir. Peut-être que je l'étais. Peut-être que je ne le suis pas, finalement. Des fois, c'est juste la vie qui nous excite. Mais en tout cas, il y a Sam qui me dit qu'il a été diagnostiqué TDAH quand il avait 8-9 ans. Il dit je prenais pas la pilule. Il dit je l'achetais, d'ailleurs. On lui a prescrit du Ritalin, mais il ne l'a jamais avalé. Il dit je me suis arrangé autrement. Je l'ai moi-même, finalement, géré, mon TDAH.
Oui, on peut le faire soi-même en développant des bonnes habitudes de vie.
On revient tout de suite après avec vos commentaires. Donc, comment vous comprenez la chose? Est-ce que vous comprenez qu'il y ait trois fois plus de jeunes qui prennent du Ritalin ici au Québec par rapport au reste du Canada? 514-790-9850. Et pour nous joindre sans frais à l'extérieur de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Les jeunes au Québec avalent trois fois plus de Ritalin qu'ailleurs au Canada. On se pose la question, est-ce que nos jeunes, nos ados, il y a Joël Monzé qui nous disait tout à l'heure qu'il y a 15% des ados qui sont sous médication. C'est quand même énorme. On a Jessie avec nous qui a deux enfants sous prescription de Ritalin. Jessie, c'est bien ça?
Non, ils ne sont pas sous prescription de Ritalin. Ils prennent du Concerta.
Concerta, qui est un peu l'équivalent.
Oui, c'est générique.
Voilà, c'est le médicament générique. Ouais. Je pense que votre conjoint aussi, Jessie, est TDAH. Hein?
Oui, et le TDAH est médicamenté Concerta aussi.
OK. Vous ne l'avez pas?
Non, moi, je ne l'ai pas.
Comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous pensez du fait là, qu'il y a une cinquantaine de spécialistes de la question qui ont dit qu'il faut que ça arrête, on en prescrit trop au Québec, on a comme une enflure sur l'espèce de prescription qu'on fait peut-être un peu trop automatiquement, le diagnostic qu'on fait puis qui n'est peut-être pas le bon finalement?
Je suis d'accord, sauf que pour en arriver à un diagnostic, je pense qu'il faut aller voir les bons intervenants. Moi, pour ma part, on est allé voir une neuropsychologue qui a fait le diagnostic. Donc, c'est sûr que la médicamentation, c'était pas nécessairement ça qui était envisagé au premier lieu. Elle nous demandait de faire certaines étapes, mais quand on se rend compte que la médicamentation apporte un changement dans la vie de tout le monde, ben c'est là qu'elle se posait la question. Tu sais, oui, c'est prescrit rapidement, mais quand on voit les changements que ça apporte, j'imagine que ça a un lien aussi, là.
Donc, un meilleur contrôle. Racontez-moi un peu la différence. Donnez-moi peut-être une anecdote des choses que vos enfants ou que votre conjoint faisaient qui étaient peut-être un signe de TDAH et qu'ils arrivent à contrôler aujourd'hui avec la médication.
Ben juste mon fils, mon plus vieux, ça fait 2-3 ans qu'il est médicamenté maintenant. Puis quand il prend pas cette pilule, là, son comportement, c'est comme si c'était Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là.
Ouais.
Je l'avais comme ça parce que il passe d'un extrême à l'autre. Mm. Puis lui-même, le sang, il est comme pas capable de s'auto-gérer s'il n'y a pas la médicamentation. C'est que c'est ça qui est pas évident. Puis ce que je me demande aussi, c'est que comme le TDAH, c'est héréditaire. Bon, moi, je le vois. Ma belle-mère est TDAH. Mon mari est TDAH. Il l'a donné aux deux enfants. J'imagine que mes enfants aussi vont le donner à les leurs. Ça veut pas dire, mais à quelque part, il y en a de plus en plus parce que c'est héréditaire.
Ouais. Joël Monzé, là-dessus, c'est intéressant ce que Jessie pose comme question, effectivement. Mais merci, Jessie.
La question de l'hérédité, il faut toujours faire attention parce que, en fait, tout est génétique, tout est neurologique. Et qu'est-ce qui est vraiment génétique et qu'est-ce qui est vraiment neurologique dans une manifestation comportementale? Il y a un ensemble de choses qui vont intervenir. On sait que, probablement que notre génétique va influencer sur environ 30-33% de nos comportements, mais notre éducation, notre communauté, notre manière de vivre dans la société va influencer aussi sur un 33%. Et on sait que les choix que la personne va faire va influencer sur un 33%. Et on sait aussi que les choix qu'on fait vont même modifier l'aspect génétique. Et c'est ça l'important, c'est oui, on sait, c'est de tout le domaine de l'épigénétique. Mm-hmm. Donc le tout, c'est de pouvoir arriver à répondre aux besoins de la personne. Et peut-être que pour madame, avec ses enfants, elle a fait le meilleur choix pour pouvoir aider sa famille. Le problème n'est pas une famille par-ci ou une famille par-là. Le problème, c'est la quantité, c'est le 14%, comme je disais tantôt, qui c'est 40% de plus que la norme internationale qui est admise et qui avait été la plus haute qui avait jamais été admise auparavant.
Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de poser des bons diagnostics puis que les médecins de famille, devant des symptômes qui s'apparentent au TDAH, vont être généreux dans la prescription?
Mais en fait, ils sont face à de la détresse. Et à ce moment-là, leur outil de travail, c'est le médicament. Moi, je suis dans un univers médical depuis 25 ans. J'étais chercheur, j'étais étudiant, je suis professeur associé aujourd'hui en psychiatrie. Mmh. J'ai la chance d'évoluer dans un milieu très médical, mais en même temps, je suis pas médecin. Ouais. Autrement dit, l'outil médicament ne fait pas partie de la panoplie de mes interventions et j'en suis heureux parce que, en tant qu'initien, ça m'oblige, en fait, à explorer d'autres choses, à essayer d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant, de l'adolescent ou même de l'adulte et essayer d'arriver avec eux à reconstruire progressivement leurs outils et il y a des solutions alternatives. Alors, si une famille prend le médicament, ben prenez-le, mais mettez autre chose en parallèle pour que dans 6 mois, on ne l'ait plus besoin.
Je sentais que l'inquiétude de Jessie, c'était aussi de savoir est-ce que ses petits-enfants, éventuellement, quand elle en aura, vont l'avoir, le TDAH. Est-ce que c'est à ce point? Il y a la génétique, mais vous sembliez dire, Joël, que c'était aussi très comportemental.
Oui, et puis il faut savoir qu'est-ce que dit exactement la génétique. Par exemple, c'est normal qu'un homme soit impulsif. Pourquoi? Parce que dans le bois, question de survie, puis qu'on veut ou veut pas, ça veut dire qu'on a une génétique de chasseur-cueilleur et pas une génétique d'un gentil employé dans un ministère. D'accord? Puis sans aucune critique de l'employé en tant que tel, mais c'est que on s'est terriblement sédentarisé, alors que notre vie et notre constitution nous amènent à être beaucoup plus actifs et dans le bois. Alors, si vous prenez quelqu'un qui va avoir d'excellents réflexes pour pouvoir survivre dans le bois en tant que chasseur, vous le mettez dans une classe ou dans un salon, ça fait désordre. Alors oui, c'est génétique, mais est-ce que c'est une maladie ou c'est une force de vie qui est mal canalisée?
Mais est-ce que c'est justement relié au fait qu'on trouve que les jeunes bougent? Tu sais, le propre de la jeunesse, c'est de bouger plus, d'avoir une espèce de... Ils sont pleins d'hormones, ils ont de l'énergie. Mm-hmm. Puis ça, ben, on les regarde puis on se dit, voyons, comment ça fait qu'ils sont, font ça parce qu'on a oublié ce que c'était.
Oui, et probablement aussi parce qu'on s'est fait tellement dire qu'on bougeait trop, on s'est fait taper derrière la tête, on s'est fait critiquer. Donc, on essaie d'aider nos jeunes à mieux fonctionner dans notre société sédentaire. Mais on va à l'opposé. Ouais. On est trop cognitif aussi. On amène beaucoup trop les enfants dans l'intellectuel au lieu de les amener dans le développement global.
Complètement. Daniel, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Écoutez, moi, je peux parler d'une expérience en tant que parent. Là. Mon fils a maintenant 20 ans aujourd'hui. Et puis, il a été diagnostiqué très tôt, là, à l'âge de 3 ans. Et puis, je vous dirais que dans ces années-là, là, ça fait quand même 17 ans, c'était un petit peu difficile avec les...
On vous perd, Daniel, malheureusement. Ouais. Je suis vraiment désolée. On vous perd. La ligne est très mauvaise. Peut-être... nous rappeler si c'est mieux. On a Martin qui nous appelle. Bonjour, Martin.
Bonjour à tous, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Bon, pour mettre la table, là, c'est moi, j'ai un enfant qui est sur du Fantin, là, un TDAH top, ça, qui est une provocation à l'opposition. Là. La question que j'aime poser, moi je suis pour, là, parce que, bon, depuis que je suis du Fantin, donc on a un 80% d'amélioration. Là. Moi, c'est moi qui... ce qu'on peut comprendre, là, c'est que oui, moi, je suis hyperactif, là, avec, c'est surtout, c'est plus à l'intérieur de ma tête que physique. Mm-hmm. Mais quand la molécule lâche avec ma fille, on a beaucoup, beaucoup de misère à cohabiter. Et je me demande si à 52 ans, je devrais peut-être pas commencer la médication pour essayer de juste me tempérer un petit peu. Ou vu que j'ai pas été jamais médicamenté, je devrais à 52 ans juste poursuivre ma vie comme ça, puis essayer de parce que définitivement, quand la molécule lâche avec ma fille vers 5 heures, ça tient plus là. On a beaucoup de contradictions. On est toujours en train de se fasticoter. On me provoque beaucoup, a créé beaucoup d'opposition. On a la misère.
Elle a quel âge? Rappelez-moi quel âge elle a?
Moi, là, à 8 ans, là, j'ai été un papa un petit peu tard dans ma vie. Là. Nous autres, on a suivi toute la procédure avec un neuro. Oui, il m'expliquait la même chose, que si on serait dans un univers de chasseurs-cueilleurs, que malheureusement, les paramètres de la vie contemporaine font en sorte qu'on restreint beaucoup les enfants.
On les force à être assis du matin au soir à écouter quelqu'un parler en avant d'une classe. Je veux dire, ça se peut qu'il y en a qui ne fitent pas là-dedans. Là.
Oui. Ben, moi, je comprends. Là, je suis tout à fait d'accord. Moi, je l'ai envoyé au privé parce que, bon, on est
c'est pas la panacée non plus, le privé.
On a un mal suivi avec les enfants plus proches. Fait que c'est sûr que... mais c'est surtout pour essayer d'améliorer...
Ouais. Je vais demander à Joël qui réponde à votre question, Martin, parce qu'on termine l'émission là-dessus. On termine, en fait, ce sujet. Joël... Bon, évidemment, on ne peut pas donner de diagnostic précis dans ce cas-ci, mais quand même, d'un point de vue général...
J'entends la détresse du papa qui dit « Est-ce que je dois me médicamenter moi-même pour pouvoir mieux gérer ma fille? » Moi, j'ai envie de dire « Allez chercher des outils ailleurs. Allez voir si un coaching parental ne peut pas vous aider. Allez voir si une thérapie familiale ne peut pas vous aider. Allez voir si, en modifiant, par exemple, l'accès aux écrans, ça ne pourrait pas modifier les choses. Regardez si vous avez tendance à manger beaucoup de nourriture industrialisée. On sait qu'il y a des colorants qui vont avoir comme des déclencheurs de comportements similaires au TDA-TDH. Donc, certains vont en fait partir de la Lune, alors que d'autres vont être hyperactifs à cause de ça. Il y a des expériences qui ont été faites par Sudan Gate en Australie qui sont extraordinaires pour justement le montrer. Elle a travaillé avec des familles, avec une école. Tous les enfants ont embarqué. Puis tu vois les vidéos avant et après l'arrêt des colorants. Puis tu n'as pas l'impression que c'est la même école. Pourtant, tu vois, c'est les mêmes enfants. Donc, il y a un paquet de choses qu'on doit faire, qu'on doit considérer. Et ce sont ces éléments-là qu'il faut remettre en perspective. Et c'est certain que la théorie dominante qui nous dit que c'est d'origine génétique et c'est neurodéveloppemental, nous donne l'impression qu'en tant qu'adulte, on n'a pas de part de responsabilité dans ce qui se passe. Oui, l'enfant, il est maître de ce qu'il fait, mais en même temps, c'est un enfant qui est en développement et il a besoin d'une présence bienveillante de la part des adultes autour de lui pour pouvoir grandir de manière adéquate.
Merci, Joël. C'est profondément... c'est triste, puis en même temps, c'est éducatif ce que tu nous dis, et puis ça encourage aussi, je pense, les parents à essayer de communiquer peut-être autrement avec leurs jeunes. Je dois dire que Joël Monzé, si vous voulez aller le voir, il donne une conférence gratuite dimanche prochain, le 17, c'est bien
ça? Oui, le 17 à Laval, au Centre des congrès.
Voilà.
En au fait, Palais Royal, pardon, Centre Royal.
C'est dimanche, c'est l'autre
oui,
dimanche.
Dans 10 jours.
C'est dans 10 jours, en
c'est
fait.
C'est au Salon de l'Éveil.
Voilà, à Laval. Et c'est sur notre capacité à être vraiment dans le moment présent. Donc, c'est un mm-hmm. super beau sujet sur la pleine présence. Merci, Joël.
Avec plaisir.
On s'arrête ici tout de suite après la pause. Vous allez trouver ça intéressant. On a un médecin qui affirme que l'obésité, ce n'est pas une maladie. Puis il a étudié la question pendant plusieurs années. Il va nous dire ce qu'il en pense. Pour ceux qui veulent peut-être gérer leur poids d'une autre façon que par des régimes qu'on croit miraculeux. À tout de suite.